Bon.
On va y aller.
On va y aller.
Répétition, inconscient, moi, culpabilité, lapsus,
désir, psychose, phobie, sexualité,
complexe, lapsus, culpabilité,
moi, culpabilité, complexe,
moi, inconscient, lapsus, répétition,
sexualité,
complexe,
désir, psychose, culpabilité,
désir, moi,
répétition, inconscient,
sexualité, complexe,
culpabilité,
lapsus, culpabilité,
lapsus,
moi,
culpabilité,
répétition,
culpabilité,
sexualité,
complexe,
lapsus, culpabilité, moi, inconscient, répétition. Ah, je vais dans l'autre sens ?
Oui.
D'accord, ok.
MDL, les mots délivrés des livres. Pour écouter autrement.
Sans faire trop sérieux non plus.
Faut quand même être un peu sérieux des fois.
Ok.
Sur la trace des mots.
Sur les chemins de notre intériorité.
Une ouverture éclair.
Sur des livres qui se livrent.
Mais qui se lisent aussi.
Olivier Lostis de l'Esperluette.
Gabriel Seban, qu'on espère net. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel.
Alors, qu'est-ce qui t'est accroché à tes branches aujourd'hui ?
Le moi, pour parler de la question de l'identité, avec, pas une phrase, mais un titre d'un psychanalyste très, très célèbre, Didier Anzieux, le moi peau. À la fois une surface, une barrière qui sépare le corps du reste, mais aussi la question de l'identité, hein, d'intégrité. C'est ma peau, risquer sa peau.
Ce concept s'appuie donc sur un rôle commun d'interface entre le dedans et le dehors que joue la peau comme le psychisme. Cette grille de lecture du fonctionnement psychique touche, c'est le moment de le dire, autant la psychanalyse que la psychologie.
Oui, alors, bon, pour aborder ces questions, on va prendre trois livres, Cerveau augmenté, homme diminué, L'étranger et Le contorsionniste. Alors, pour le Cerveau augmenté, homme diminué, de Benaz Ayag aux éditions de la Découverte, c'est un essai qui est passionnant et qui commente ce qu'on peut peut-être reconnaître comme une illusion, mais aussi une obsession du moment. Par le passé, le sujet a souvent fasciné, mais la technologie aujourd'hui nous fait croire, par exemple, possible la fabrication de l'intelligence et de tout un tas d'autres choses. Alors, se prenant lui-même pour objet d'étude, c'est ça qui est nouveau, le cerveau se pense comme un objet qu'on peut du coup parfaire, augmenter, améliorer, modifier. C'est-à-dire qu'on le regarde à ce moment-là comme une machine, un peu comme ce que Descartes disait de l'animal. C'est l'illusion du jour où le cerveau est censé représenter notre être, être notre être, presque séparé du corps, qui ne serait que l'objet qu'on possède. Or, le cerveau, c'est du corps aussi. La mémoire, c'est pas simplement un phénomène du cerveau, mais c'est aussi des sensations. Et la sensation, c'est aussi le corps. C'est-à-dire qu'à prendre la partie pour le tout, on se risque à de nombreuses mésaventures. Est-ce que, par exemple, la greffe transhumaniste peut vraiment prendre ? C'est-à-dire, est-ce que mes prothèses, à l'avenir, est-ce que mes augmentations de capacité seront bien moi ?
Alors là, on touche le fantasme des fantasmes, la domination suprême, celle qui effectivement vise et concerne directement le cerveau humain. Si la connaissance pousse à mieux comprendre l'organe mystérieux, il est régulateur effectivement des fonctions corporelles, mais il touche aussi à la limite de l'usage qu'on peut faire de ce savoir. Le savant est-il responsable de ce qu'il découvre ? Et devant qui ? La question de la performance et de la perfection se pose dans une société qui rapproche souvent progrès et profit. L'hyperdéveloppement de notre intelligence individuelle alimentera-t-elle, d'après toi, dans le même temps, notre intelligence collective ?
C'est difficile de répondre à cette question, mais d'ailleurs c'est difficile de définir ce qu'est l'intelligence. Justement, aujourd'hui par exemple, l'intelligence, on la résume souvent par les capacités de déduction cognitive, hein, la capacité à faire des opérations, la capacité à être justement comme un calculateur. Bon, est-ce que c'est vraiment ça l'intelligence ? Que fait-on de l'intelligence relationnelle par exemple là-dedans ? On n'en parle pas. Bon, ce sont des sujets qui sont difficilement reliés. Alors, pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur cette question de l'identité, ce qui est nous, ce qui n'est pas nous, je voulais parler aussi de L'étranger de Camus, livre extrêmement connu aux éditions Gallimard. Parce que quand même, moi justement, ça n'est pas qu'un ensemble de capacités ou un ensemble de souvenirs. On a aussi cette illusion hein, que, par exemple, pour accéder à l'immortalité, il suffirait d'enregistrer dans une machine l'intégralité de nos souvenirs, et puis ces souvenirs qu'on a enregistrés, ça serait un autre moi. Or, ça fait partie de moi, mais qu'est-ce qui est moi ? Par exemple, il nous arrive de dire « ça ne lui ressemble pas » ou « ça ne me ressemble pas ». Pourtant, c'est bien la personne en question qui agit. Dans L'étranger de Camus, le héros, à partir de la mort de sa mère, perd pied en quelque sorte, une épreuve bien sûr toujours douloureuse, mais là, ses assises dans le monde semblent s'effondrer. Il va entrer dans un moment où toute la réalité, sans doute parce qu'il y a quelque chose d'insupportable dans cette réalité, s'éloigne. Les choses lui échappent. Il ne se reconnaît pas, il ne s'identifie pas à lui-même, il ne ressent plus d'émotion. Et c'est la réalité qui, du coup, devient mystérieuse. Hein, si on ne réagit plus à cette réalité, si on n'a plus d'émotion, de ressenti par rapport à la réalité, ça devient juste un gigantesque mystère. Il n'arrive plus à avoir de représentation cohérente non plus, rien de ce qui l'entoure n'est solide, ni lui-même, parce que peut-être un élément très important de la réalité a disparu, sa mère. On voit comment le moi, celui du moins qui dit « je », est dépendant aussi de ce qui lui est extérieur, c'est-à-dire aussi de l'autre qui nous parle, et est un autre moi.
Alors la réalité, effectivement, est structurée par notre intériorité, en fait, nos actes et nos émotions qui en découlent. En mathématiques, si on peut raisonner sur une hypothèse fausse et raisonner précisément de manière juste sur une hypothèse fausse, la personne est amenée à se demander à quel moment une erreur de compréhension de ce qui se passe s'est produite et l'a fait, d'une certaine manière, s'écarter du sens. Alors, comment une cohérence peut-elle déraper ?
Alors justement, la cohérence, l'identité, être identique à soi-même, tout ça, ça va ensemble. Ça peut être aussi très très dangereux, l'identité. Hein. On voit dans quelles extrémités, parfois, un sentiment identitaire peut nous conduire. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, certainement encore. Par exemple, dans Le Contorsionniste de Craig Clevenger, aux éditions du Nouvel Attila, c'est la rencontre d'un psy et d'un homme dont la vie est une succession de vies. En effet, dès qu'un événement difficile apparaît dans sa vie, le contorsionniste prend beaucoup trop de drogue, il fait une overdose. Il se retrouve devant un psy après avoir été admis aux urgences, évidemment. Et ce qui peut risquer d'arriver, c'est qu'il soit interné. C'est sa hantise. Il change donc à chaque fois d'identité. Comme ça, on ne peut pas repérer qu'il est récidiviste et le psy va considérer que c'est un accident unique. Là, il va se retrouver devant un professionnel, par contre, très malin, qui doute, qui ne comprend pas. Et ça va être l'occasion de revisiter la vie du contorsionniste. Il faut bien en faire un livre, quand même. Donc cet homme change d'identité. Il change de papier, il change d'adresse, il change de nom, il change de lieu d'habitation. Il va à l'autre bout du pays. Hein, et il mène à chaque fois une autre vie. Sauf qu'à un moment, il tombe amoureux. Du coup, ça devient difficile parce que quand il change de vie, il change qui il est. Et puis, il perd tout ce qu'il a pour en changer. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, on a quelqu'un qui se souvient. C'est là son problème. Il a bien une vie, une identité de souvenir, justement, qui vient l'empêcher de vraiment changer de vie. Là, par exemple, il ne peut pas oublier qu'il est amoureux. Il ne peut pas oublier cette femme. Alors, c'est un problème. Et ça indique bien que moi, c'est aussi mon histoire. Et que là, le personnage sait que s'il reste avec la même femme, il y aura une continuité d'histoire. Et la leçon de cet ouvrage, c'est aussi que ce qui nous accompagne nous fixe un peu. C'est-à-dire qu'il faut peut-être un autre ou des autres, faute de quoi on se diluerait dans une perpétuelle métamorphose sans aucune référence.
Oui, alors on est devant les impressionnantes amarres de l'identité, de ce qu'on est dans le présent et qu'on a été aussi dans le passé. L'amour qui nous livre à ce que nous sommes et à la mémoire qui révèle la photographie plus ou moins décolorée de ce que nous avons été. Ces ancrages n'ont rien de matériel et pourtant d'eux dépendent la relation que nous avons à l'autre et au monde. se déformer au point de devenir un autre à soi-même, est-ce la bonne manière finalement d'échapper à ce qui nous aspire, au point de ne plus exister devant aucun désir?
Alors, est-ce que c'est la question du désir seulement? Peut-être pas. En tout cas, je crois qu'il est important de considérer que justement le moi, pour revenir au titre d'Anzieux, le moi pour, le moi est une surface, mais qui est en contact avec l'extérieur d'une part et avec l'intérieur de l'autre, et qu'il y a une perméabilité. Nous ne sommes pas toujours identiques à nous-mêmes. Et nous avons la possibilité de changer, la possibilité d'évoluer. Ça, c'est extrêmement important. Mais Gabriel, les mots délivrés du sens, peut-être, maintenant.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là. Elle est juste à l'intérieur de cette parenthèse. De cette parenthèse. Un truc là qui claque. De. Vous inquiétez pas, ça repart.
C'est une petite fable aujourd'hui. Le moi jouait un petit jeu particulièrement excitant. Un cache-cache entre celui qu'il semblait être et celui qu'il n'était pas. Il interpella le je, première personne à se nommer, le trouvant égoïste, bruyant et un petit peu trop actif. Celui-ci lui répondit : pour trouver ta liberté, il te faudra bien abdiquer devant ma personnalité. S'en prenant au je, le moi lui asséna : faux plâtre, sacrifie ta carapace qui masque tes désordres, et sache qu'agir ne reste qu'un verbe à conjuguer si moi n'y est pas.
Voilà, rendez-vous le mois prochain.
Et que les mots vous portent bien.
À bientôt.
Mario a des yeux d'oiseau sous son grand chapeau. Il vend de la verveine en gros de son sac à dos. Il s'incline devant le client qui lui coupe le vent. Il s'incline devant le client qui lui donne l'argent. Marché des mendiants. Mamouchka a des yeux de chat sous son grand chapeau. Elle vend de la vieille vodka, produit en taïga. Elle s'incline devant le client qui lui coupe le vent. Elle s'incline devant le client qui lui donne l'argent au marché des mendiants. Mahmoud a des yeux de mammouth sous son grand foutard. Il vend des couscous, des casse-croûtes comme ils font là-bas. Il s'incline devant le client qui lui coupe le vent. Il s'incline devant le client qui lui donne l'argent. Marché des mendiants.